Eh bien, bonjour, frères et sœurs. Soyez les bienvenus à cette web émission. Nous sommes très heureux de pouvoir être ensemble aujourd'hui et ensemble d'étudier la parole de Dieu. Demandons la bénédiction de Dieu sur notre étude ce matin. Père Saint, du Tout-Puissant, nous venons à toi pour te louer, te remercier de tous tes bienfaits. Nous te remercions de ton saint jour de sabbat qui nous accorde du repos physique et spirituel. Et nous venons à toi maintenant pour te demander de nous inspirer dans notre étude de ta parole. Nous savons, Père, que nous avons besoin de ton Saint-Esprit pour pouvoir cerner les enseignements de la Bible. Voilà pourquoi nous venons à toi maintenant pour te demander de nous ouvrir le cœur et l'esprit par ton Saint-Esprit, afin que nous puissions comprendre et nous rappeler des vérités que nous verrons aujourd'hui. Nous te remercions, Père, de guider cette étude maintenant, et nous t'adressons cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, bonjour, frères et sœurs. Nous sommes très heureux de pouvoir être ensemble aujourd'hui, le temps de cette étude. Dans les livres prophétiques de la Bible, beaucoup d'éléments, beaucoup d'événements, beaucoup de pays et de personnages sont décrits par des images. Il y a beaucoup d'imagerie dans les prophéties de la Bible. Dieu a décidé de nous enseigner beaucoup de choses sous couvert de ces images. Cela se fait pour plusieurs raisons. D'abord, la compréhension des prophéties n'est pas donnée à tout le monde. Il faut que Dieu décode, en quelque sorte, les images des prophéties. Et il décide à qui il va le décoder, à qui il va révéler la signification de ces images. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une image très importante qui se trouve dans le livre d'Apocalypse. Il s'agit de l'image d'une femme. Et en fait, dans l'Apocalypse, nous avons plusieurs femmes qui sont présentées pour représenter autre chose. Dans l'Apocalypse chapitre 12, nous avons l'histoire d'une jeune femme enceinte poursuivie par le dragon. Le dragon qui veut, la Bible nous dit, détruire son enfant mâle dès qu'il est né. Le dragon ensuite persécute la femme, qui est protégée dans le désert pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du dragon. Le dragon va alors faire la guerre au reste de sa postérité, c'est ce que nous lisons dans Apocalypse 12, sa postérité qui garde les commandements et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. En considérant toutes ces images, tous les commentateurs de la Bible sont d'accord pour dire que cette femme représente l'Église fondée par Jésus-Christ. La continuité d'Israël ancien, il s'agit maintenant d'un nouveau Israël de Dieu, l'Église. Cinq chapitres plus tard, ou plus loin, dans le livre d'Apocalypse, une autre femme est présentée. Mais là, la plupart des commentateurs manquent le parallèle et ne considèrent pas que cette femme-là, dans l'Apocalypse 17 et 18, peut représenter une autre église, mais cette fois-ci, pas la vraie église. Les commentateurs ne considèrent pas qu'il puisse s'agir d'une fausse église. Mais comme nous allons le voir aujourd'hui, l'imagerie de la Bible dirige nos regards vers cette compréhension. Il s'agit, dans l'Apocalypse 17 et 18, d'une fausse église. Une fausse église qui va jouer un rôle très important dans l'accomplissement des prophéties du temps de la fin. Alors nous allons voir aujourd'hui, nous allons étudier l'imagerie de cette femme dans Apocalypse 17 et 18, et nous verrons quelques parallèles intéressants avec des prophéties que Dieu avait données à Jérémie des centaines d'années auparavant. Dans la vision que Dieu a donnée à Jean sur l'île de Patmos, il s'est servi des mêmes images qu'il avait révélées à Jérémie quand il a prophétisé la chute de la ville réelle de Babylone, non pas symbolique mais réelle, en 539 avant Jésus-Christ. Regardons en guise d'introduction Jérémie chapitre 51. Et regardons certaines choses que Dieu a révélées à Jérémie à propos de la ville de Babylone. Babylone qui avait détruit Jérusalem et avait amené en captivité le peuple juif. Jérémie, chapitre 51, à partir du verset 1. Jérémie 51, verset 1. Ainsi parle l'Éternel, voici je fais lever contre Babylone et contre les habitants de la Chaldée un vent destructeur. J'envoie contre Babylone des vanneurs qui la vanneront, qui videront son pays. Ils fondront de toutes parts sur elle au jour du malheur. Qu'on tende l'arc contre celui qui tend son arc, contre celui qui est fier de sa cuirasse. N'épargnez pas ces jeunes hommes, exterminez toute son armée. Qui tombe blessé à mort dans le pays des Chaldéens, percé de coups dans les rues de Babylone. Car Israël et Juda ne sont point abandonnés de leur Dieu, de l'Éternel des armées, et le pays des Chaldéens est rempli de crimes contre le Saint d'Israël. Fuyez de Babylone, et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans sa ruine. Car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel, il va lui rendre selon ses œuvres. Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations ont été comme en délire. Soudain Babylone tombe, elle est brisée, gémissez sur elle, prenez du baume pour sa plaie, peut-être guérira-t-elle. Nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas guéri. Abandonnons-la et que chacun aille dans son pays. Car son châtiment atteint jusqu'aux cieux et s'élève jusqu'aux nues. L'Éternel manifeste sa justice de notre cause, la justice de notre cause. Venez et racontons dans Sion l'œuvre de l'Éternel, notre Dieu. Aiguisez les flèches, saisissez les boucliers. L'Éternel a excité l'esprit des rois de Midi parce qu'il veut détruire Babylone. Car c'est la vengeance de l'Éternel, la vengeance de son temple. Élevez une bannière contre les murs de Babylone, fortifiez les postes, placez des gardes, dressez des embuscades, car l'Éternel a pris une résolution, et il exécute ce qu'il a prononcé contre les habitants de Babylone. Toi qui habites près des grandes eaux, et qui as d'immenses trésors, ta fin est venue, ta cupidité est à son terme. L'Éternel des armées l'a juré par lui-même. Oui, je te remplirai d'hommes comme de sauterelles, et ils pousseront contre toi des cris de guerre. Je vais m'arrêter là, mais je vous encourage à lire le reste du chapitre 51, aussi Jérémie chapitre 52, et vous allez voir qu'il y a des parallèles frappants avec les passages que nous allons lire et étudier aujourd'hui dans le livre de l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse chapitre 17, et je m'y rends maintenant, Apocalypse chapitre 17, nous allons voir cette femme qui est révélée, nous allons tâcher de comprendre de quoi il peut s'agir. Qui est cette femme? Cette femme imagée représente qui ou quoi aujourd'hui? Apocalypse chapitre 17. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint, il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Et les grandes eaux, ça nous rappelle ce que nous venons de lire dans Jérémie chapitre 51. Le même image était mentionnée. Elle était au bord des grandes eaux, la ville de Babylone. Ici, nous voyons cette femme qui est assise sur les grandes eaux. Tout au long de l'écriture, la prostitution, l'infidélité sexuelle, l'adultère, la fornication, la prostitution, sont symboliques de l'idolâtrie. Le fait d'avoir abandonné le vrai Dieu et le fait de s'être attaché à une fausse religion. Cela se répète beaucoup de fois dans l'Ancien Testament. Je vais prendre maintenant Ézéchiel chapitre 23. Ézéchiel 23, nous avons un exemple parmi beaucoup, Ézéchiel 23, verset 37. Ici, dans ce chapitre d'Ézéchiel, Israël et Juda, ces deux royaumes qui formaient le peuple avec lequel Dieu travaille à l'époque, sont appelés Aola et Aluiba. Ce sont des noms symboliques pour ces deux pays. Et dans Ézéchiel chapitre 23, verset 37, Dieu dit de ces deux pays, elles se sont livrées à l'adultère et il y a du sang à leurs mains. Elles ont commis l'adultère avec leurs idoles. Et les enfants qu'elles m'avaient enfantés, elles les ont fait passer par le feu pour qu'ils leur servent d'aliment. Donc, ici, le fait d'aller d'après de faux dieux, d'après les idoles, c'est comparé à de l'adultère, c'est appelé une adultère. Et il y a beaucoup d'autres références comme cela dans les prophéties d'Ézéchiel et d'Ésaïe. Vous pouvez comparer Ézéchiel chapitre 16, verset 15, et Ésaïe chapitre 1, verset 21. Vous trouverez encore d'autres exemples où l'infidélité sexuelle, l'immoralité sexuelle est comparée ou est utilisée pour signifier l'idolâtrie. Il faut dire qu'à l'époque, souvent, l'immoralité sexuelle était associée à des religions païennes. La sexualité faisait partie du culte de beaucoup d'idoles et de faux cultes, et cela faisait partie de leur cérémonie. Donc c'était normal de comparer l'adultère et l'immoralité sexuelle à cette idolâtrie, parce que très souvent les deux allaient ensemble. Alors la prostituée, ici, dans Apocalypse chapitre 17, représente une fausse religion, une fausse église, une idolâtrie éloignée du culte du vrai Dieu. Et c'est ce que l'ange a dit, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Et nous verrons tout à l'heure ce que représentent ces grandes eaux. Verset 2. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Cette femme, cette prostituée, qui représente une église, une fausse église, est indiquée ou identifiée au verset 18 comme une ville qui règne sur les rois de la terre. Chapitre 17, verset 18. La femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Nous commençons maintenant à mettre des indices ensemble pour identifier qui est cette femme ou ce que représente cette femme. Une fausse religion centrée dans une ville qui a la royauté sur les rois de la terre, qui a dirigé, qui avait une dominance, une domination sur différents rois de la terre. Alors, posons-nous la question, de quelle ville peut-il s'agir ? Est-ce qu'il y a une ville liée à une grande religion qui règne sur plusieurs rois, des rois de la terre? Ben, alors, quelles sont les villes qui sont le centre du culte d'une grande religion? Pour les judaïsmes, ça c'est Jérusalem, mais là, c'est pas une fausse religion. Est-ce que ça serait l'islam? L'islam est centré dans la Mecque. Mais la royauté sur beaucoup de rois sur la terre, pas vraiment. Il n'y a pas vraiment une ville principale associée au bouddhisme ou au hindouisme. Et le catholicisme, par exemple, la ville de Rome. La ville de Rome est le centre d'une grande religion, le catholicisme, et Rome a dominé pendant très longtemps beaucoup de rois en Europe, pendant une très longue période. Assis sur de grandes eaux, nous avons vu. Ça, c'est la référence que nous avons lue dans Jérémie chapitre 51, verset 15. Assis sur de grandes eaux, c'est Babylone. La ville ancienne de Babylone était située sur l'Euphrate, et ces eaux navigables étaient une clé pour la richesse de la ville à travers le commerce qui passait par là. Mais cette fois-ci, les grandes eaux sont symboliques de peuples, de foules, de nations et de langues. C'est ce que nous voyons dans Apocalypse 17, verset 15. Les eaux sont les peuples, des foules, des nations et des langues. Donc, cette ville associée à une grande religion, qui a une domination sur des rois de la terre, est assise sur des peuples, des foules, des nations et des langues. Beaucoup de langues diverses, différentes. Alors, encore une fois, une indication qu'il s'agit de la ville de Rome. C'est la ville qui représente le mieux ou qui répond au mieux à tous ces différents éléments que nous sommes en train de voir. Apocalypse chapitre 17, verset 2, les rois de la terre se sont livrés à la débauche, c'est-à-dire à l'idolâtrie. et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Ils ont été mélangés par les enseignements, les faux enseignements de ce culte, enivrés par l'idolâtrie, par une fausse religion. Verset 3, « Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphème, et en 7 têtes et 10 cornes. » 7 têtes et 10 cornes sur cette bête écarlate. Et nous comprenons, ça dépasse les possibilités de cette étude aujourd'hui. Vous pouvez voir la brochure qui va bientôt sortir en français à propos de livre de l'Apocalypse. Mais cette bête écarlate qui a 7 têtes et 10 cornes, ce sont des manifestations du Saint-Empire romain, maîtrisées par l'Église catholique, qui a contrôlé, a maîtrisé beaucoup de rois et de gouvernements différents en Europe. Il y a donc une ville, il y a une église, il y a un pouvoir gouvernemental, et tout cela coïncide avec ce que nous trouvons à Rome. Verset 4. « Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Cette église s'est enrichie, est devenue très riche. Et là encore, on voit que c'est effectivement comme cela quand nous regardons l'église de Rome. Sur son front est écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Donc, il s'agit, encore un autre indice, d'une église qui aurait donné naissance à d'autres fausses églises ayant de faux enseignements et pratiquant une sorte d'idolâtrie, de grande richesse, la mère des impudiques, des prostituées et des abominations de la terre. Cette ville, cette fausse religion a donné naissance à d'autres fausses églises. Quelle ville trait d'union église est associé à au fait d'avoir donné naissance à d'autres églises. Nous y reviendrons tout à l'heure. Verset 6. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. C'était étonnant pour Jean de voir ce que cette femme a pu faire. Cette fausse église contrefaçon a persécuté la véritable Église. Et quand nous regardons à travers l'histoire, pour chercher une Église qui aurait persécuté les gens qui observaient le sabbat, le septième jour de la semaine, qui adoraient Dieu ce jour-là, qui respectaient les autres commandements de Dieu, eh bien, nous voyons qu'il y avait des groupes non catholiques, des chrétiens non catholiques en Europe, qui étaient persécutés. Il y a eu des croisades qui ont été déclarées contre ces chrétiens non catholiques. Il y a eu, par exemple, la croisade contre les Albigeois ou les Cathares dans le sud de la France. Le pape Innocent III a ordonné une croisade pour éradiquer cette religion, ce culte de Dieu, de Jésus-Christ, mais non catholique. Et c'est ce que l'Église catholique a fait, éradiquer complètement. Tués jusqu'au dernier croyant. Et bien sûr, beaucoup des premières persécutions contre l'Église ont été réalisées en Rome, dans la ville de Rome ou par Rome pré-chrétienne, mais le lien est toujours là. Que ce soit Rome pré-chrétien ou Rome, entre guillemets, chrétien, il y a eu des persécutions contre ceux qui se tenaient ou qui tenaient au commandement de l'Éternel, en particulier au sabbat. Verset 7, l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue, elle n'est plus, elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition, et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, elle n'est plus, qu'elle reparaîtra. Cette bête, c'est le gouvernement qui a soutenu cette Église, le Saint-Empire romain, qui n'est plus pour le moment, mais nous reconnaissons, nous comprenons par ces prophéties, qu'il y aura une renaissance du Saint-Empire romain avant le retour de Jésus-Christ. Verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Alors, encore une fois, religion, ville, assise sur cette montagne. Il y a ici sans doute une double référence. Il y avait sept royaumes historiques, et tout cela sera élucidé dans la brochure à sortir bientôt. Mais Rome, la ville de Rome, est littéralement assise sur sept collines. Et ces sept collines, les sept collines de Rome sont très connues. Le Palatin, Capitanine, l'Aventin, Viminal, Quirinal, Esculin et Caelius. Et tout cela se trouve sur Internet très facilement maintenant. Une ville assise sur sept collines, une ville qui a été, une religion qui était assise sur sept royaumes également historiquement. Continuons, verset 10, ce sont aussi sept rois, donc cette colline, mais aussi sept rois sur lesquels cette femme a régné. Cinq sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un huitième roi, elle est du nombre des sept, et elle va à la perdition. Dix cornes. Les dix cornes, verset 12, que tu as vues, sont dix rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais que reçoivent l'autorité comme roi pendant une heure avec la bête. Il s'agit ici de dix rois encore à venir, qui vont se battre contre Jésus-Christ à son retour. Il s'agit donc du temps de la fin. Rappelons-nous que la femme est assise, la prostituée est assise sur la bête à ce moment-là, au moment du retour de Jésus-Christ, au temps de la fin. Donc, il y a une fausse religion associée à une ville qui va jouer un rôle important dans la maîtrise de cette grande union des nations qui combattront contre Christ à son retour. Comment cela se passera est en partie exposé dans Apocalypse chapitre 13 à partir du verset 11. Et là, je ne vais pas prendre le temps de le lire maintenant, mais vous verrez si vous lisez après dans Apocalypse 13, versets 11 à 18, qu'il y aura un faux prophète. Le chef de cette fausse religion, au temps de la fin, il aura le pouvoir d'accomplir des miracles. Et il va séduire beaucoup de gens. Il va séduire le monde entier, en fait, sauf le petit troupeau avec lequel Dieu travaille. Apocalypse chapitre 13. Je vais quand même lire une partie de ce passage. Apocalypse 13, verset 11. Apocalypse chapitre 13, verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Donc, un animal qui ressemblait à un agneau Jésus-Christ, mais qui parlait comme le dragon. Le message est faux. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre un feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Ce faux prophète aura le pouvoir de faire de miracles trompeurs. Et il séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Persécution contre ceux qui refusent cette idolâtrie. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur la main droite et sur le front, maîtrisant l'activité et la pensée des gens à cette époque, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Et encore une fois, ça c'est un autre sujet. Mais ce que nous voyons ici dans Apocalypse chapitre 13, va très étroitement avec ce que nous sommes en train d'étudier dans Apocalypse chapitre 17. Une bête qui ressemble à un agneau, les agneaux sont inoffensifs, doux, c'est un symbole du Christ également, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Ça ressemble à du christianisme, mais la voix, c'est la voix du dragon. C'est Satan qui anime, c'est Satan qui est derrière cette image ou ce symbolisme. L'image de la bête, nous comprenons qu'il s'agit là de la structure de l'Église catholique romaine qui était calquée sur l'Empire romain. Il y a une image très étroite, un reflet, comme dans un miroir, entre l'ancien Empire romain et la structure de la gouvernance dans l'Église catholique aujourd'hui. On a beaucoup écrit sur ces parallèles, et là aussi vous pouvez trouver dans les écrits de l'Église beaucoup plus d'explications là-dessus. Dans Apocalypse chapitre 16, allons un peu plus loin, chapitre 16, verset 13, nous allons voir un autre chose accomplie par ce faux prophète au temps de la fin. Apocalypse 16, verset 13. Jean dit, je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète. C'est ce que nous venons de voir au chapitre 13. Trois esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Donc, ce faux prophète va jouer un grand rôle dans le rassemblement des armées du monde pour se battre contre Jésus-Christ à son retour. Verset 15. « Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. C'est le grand rassemblement des armées du monde pour se battre contre Jésus-Christ à son retour. Une grande unité dans le monde. Il y aura une grande unité dans le monde juste avant le retour de Christ, mais une unité pour le mal et non pas pour le bien. Il est important de mentionner, en lisant ceci, que nous ne devons pas penser que tout le monde qui sera impliqué dans ces événements au temps de la fin, sera complètement mauvais de cœur. Ce n'est pas forcément le cas. Le dragon, la Bible nous dit, trompe, séduit toute la terre, le monde entier. Et il pourrait avoir ce que nous pourrions considérer comme de bonnes personnes, de bons gens, qui seront entraînés par ce grand mouvement de masse au temps de la fin. Il y a eu un livre qui est sorti il y a quelques années sur l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale, et le titre en était « Bourreau volontaire de Hitler ». Et cela montrait que même des chrétiens en Allemagne étaient entraînés à participer dans ces guerres terribles menées par ce gouvernement. Les gens bien éduqués, les gens qui allaient à l'église chaque dimanche, ils ont fini par perpétrer des choses terribles parce qu'ils ont été entraînés par un mouvement de masse. Cela sera le cas pour beaucoup de gens au temps de la fin. Nous ne devons pas forcément regarder de travers chaque catholique que nous rencontrons, bien au contraire. Ce sont des gens souvent bien motivés qui essaient d'agir pour le mieux, selon ce qu'ils comprennent. Mais au moment de la fin, au moment du temps de la fin, les gens seront séduits par tous ces différents événements, les miracles trompeurs du faux prophète et un mouvement de masse, beaucoup de gens seront entraînés par ces choses-là. Rappelons-nous que Jésus a prié peu de temps avant sa mort, « Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font ». Et ce sera le cas de la plupart des gens dans ces événements du temps de la fin. Ils seront sincères, ils vont être motivés par ceux qui croient être le mieux, mais ils ne vont pas comprendre vraiment ce qu'ils sont en train de faire et ce en quoi ils ont été entraînés. Alors, faisons le point un petit peu. Qu'est-ce que nous avons vu jusqu'à présent en lisant Apocalypse 17? Nous avons vu qu'il y a une fausse religion associée à une ville. Nous avons vu que cette fausse religion a donné naissance à d'autres églises et qu'elle sera impliquée dans la réalisation de cette unification ultime juste avant le retour de Jésus-Christ. Les 10 royaumes qui vont constituer, ces 10 rois au royaume, qui vont constituer la puissance de la bête, le Saint-Empire romain, qui va revoir le jour avant le retour de Christ. Et nous avons vu aussi que cette ville, trait d'union religion, jouera un rôle important dans cette union entre l'Église et l'État qui existera avant le retour de Christ et va réunir beaucoup de peuples de langues différentes dans une seule union. Ça va durer que peu de temps, mais ce sera une union, une unification très frappante. Réfléchissons à certaines choses qui ont été dites par le pape présent, François, qui cherche à révolutionner plusieurs éléments au sein de l'Église catholique romaine. Au mois de septembre 2013, donc il y a 4 ans plus ou moins maintenant, il a écrit une lettre ouverte à un journaliste italien dans laquelle il a dit ceci, je cite, « Je ne parlerai pas de vérité absolue, même pour les croyants. La vérité est une relation. En tant que telle, chacun de nous reçoit la vérité et l'exprime de l'intérieur, c'est-à-dire selon les circonstances propres à chacun, de la culture et de la situation dans la vie. Quand on lui a posé la question par la suite sur les grands changements dans la société ainsi que la manière dont les êtres humains se sont eux-mêmes réinterprétés, François a lu de son bréviaire, bien écorné, les écrits d'un saint du 5e siècle sur les lois régissant le progrès. Voilà ce qu'il a lu. Même le dogme de la religion chrétienne doit procéder de ces lois. Il progresse, se solidifie avec les années, de plus en plus au fil du temps. Et ensuite, François continuait, nous grandissons dans la connaissance de la vérité. Il existe des règles et des préceptes ecclésiastiques qui étaient autrefois efficaces, mais maintenant ils ont perdu de la valeur ou de la signification. Considérer l'enseignement de l'Église comme un monolithe à défendre sans nuance ou sans interprétation différente est faux. Ça laisse à penser qu'il serait ouvert à des modifications, des changements dans les dogmes de l'Église afin de pouvoir s'unifier ou attirer d'autres personnes. Le pape a aussi dit au journaliste Antonio Spadaro, « Beaucoup pensent que les changements et les réformes peuvent avoir lieu dans un court laps de temps. Je crois qu'il nous faut du temps pour jeter les bases d'un changement réel et efficace. Et il faut du discernement. Parfois, le discernement nous invite plutôt à faire immédiatement ce que nous avions d'abord pensé faire plus tard. » Le pape présent veut un changement, d'après ce qu'il dit ici, assez radical de l'Église catholique, veut la moderniser afin de pouvoir inclure plus de gens. Sous la direction de François, une directive a appelé au diocèse à distribuer aux paroissiens un questionnaire du Vatican qui demande leur avis sur le divorce, la contraception, le concubinage et le mariage homosexuel. Il pose la question, qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi poser une telle question? Intéressant à considérer. Cette panoplie de questions liées au sexe, qui a divisé l'Église et a décimé son autorité, va maintenant être réenvisagée. Il y a beaucoup de catholiques qui ne pratiquent pas ce que l'Église enseigne à propos de la sexualité, et ils trouvent ça normal. Cela amoindrit l'autorité de la papauté et de le gouvernement dans cette Église. Maintenant, apparemment, ils sont en train de réenvisager cela. Il n'y a pas si longtemps, Rome insistait que le changement sur l'une de ces questions, n'importe laquelle, était impossible. Maintenant, ils posent les questions. Pourquoi demander si un changement n'est pas possible? C'est ce qu'ils sont en train de, tâter le terrain maintenant. Cela semble présager une Église qui pourrait rassembler des gens de croyances assez diverses et créer une grande unité sous une seule parapluie, si on va dire. C'est un mouvement qui est en cours maintenant dans l'Église catholique. Dans Ésaïe chapitre 47, nous lisons une chose, il y a une prophétie à propos de l'Église aussi. Ésaïe 47, Babylone figure très souvent dans les prophéties, non seulement à cause de ce que la ville de Babylone a fait dans l'Antiquité au peuple d'Israël, mais à cause de cette Babylone que nous retrouvons dans l'Apocalypse, Babylone prophétique pour les temps à venir. Et les prophéties que nous trouvons dans l'Ancien Testament, très souvent, il y a une dualité dans la signification. Il y avait une signification, l'accomplissement pour le royaume physique de Babylone, le royaume ancien, mais il y a aussi des accomplissements à venir pour cette Babylone la grande, qui va voir le jour encore dans l'avenir. Mais dans Ésaïe chapitre 47, verset 8, c'est un jugement sur Babylone, comme nous le voyons au verset 1. « Écoute maintenant ceci, voluptueuse, qui t'assis avec assurance, et qui dit en ton cœur, moi et rien que moi, je ne serai jamais veuve, je ne serai jamais privée d'enfant. » Et nous avons vu dans Apocalypse que cette grande prostituée est la mère d'autres églises, des abominations de la terre. Jamais privée d'enfants. Est-ce que cela serait une référence à la réunification avec les églises qui sont sorties de l'église de Rome? C'est une pensée intéressante à considérer. Ce sont des développements fascinants et je suis certain que nous allons vouloir suivre ces choses de près dans l'avenir. Mais finalement, le pouvoir de la bête va se retourner, la bête c'est le pouvoir civil ou militaire, ce pouvoir va se retourner contre la grande prostituée et va la détruire. Apocalypse chapitre 17, allons-y de nouveau. Apocalypse 17. Verset 16. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu. Elles mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Cette union entre l'Église et l'État va durer un certain temps, pas très longtemps apparemment. Et puis le pouvoir civil et militaire va se retourner contre cette fausse église, cette prostituée, et elle sera détruite. Le pouvoir militaire va se retourner contre la prostituée pour la détruire, et la dépouilleront, prendra plutôt de ses trésors. Maintenant, Apocalypse chapitre 17, verset 17. Car Dieu a mis dans le cœur d'exécuter son dessein, un même dessein, et de donner la royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Tout ceci se passe sous la maîtrise ultime de Dieu. Dieu fait accomplir son plan. Il laisse aller la méchanceté jusqu'à un certain point, et puis il intervient. Chapitre 18 maintenant, Apocalypse 18, verset 1. Apocalypse 18, verset 1. « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « elle est tombée, Babylone la grande, et est devenue une habitation de démons, de repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. » Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Cette union entre l'État et l'Église au temps de la fin va enrichir la terre, beaucoup de commerce. Et ici, quand nous parlons de Babylone la Grande, c'est tout le système, c'est pas uniquement l'Église maintenant, mais c'est le système dans son ensemble, y compris la partie civile, le commerce, l'économie. Verset 4, « J'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Apparemment, il y aura une tentation pour des membres de l'Église, le peuple de Dieu, de participer, parce que l'offre de richesse, la tentation de richesse dans cette économie, cette tentation sera forte. Et Dieu dit, il y a un avertissement ici, sortez spirituellement, il ne faut pas vous mêler à ce qui va venir. Pas une bonne chose. car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil, parce qu'elle dit en son cœur, « Je suis assis en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil. » Cela reflète ce que nous avons vu dans les prophéties de l'Ancien Testament. Elle n'a jamais manqué d'enfant. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront. La mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. Dieu laisse aller les choses, il permet à la méchanceté des hommes d'arriver jusqu'à un certain point, mais puis il dit stop, ça suffit, il intervient, et il met un terme à la méchanceté, à l'idolâtrie, au péché des hommes. Mais nous avons cet avertissement que nous devons garder à l'esprit, il ne faut pas participer dans un mauvais système, et nous voyons de plus en plus dans le monde qui nous entoure un mauvais système, un système immoral qui insiste sur l'immoralité, qui normalise l'immoralité. Et nous ne devons pas permettre à ce que nos pensées soient affectées par cela. Les voies du monde, le monde dans lequel nous vivons, ces voies sont mauvaises, vont dans le mauvais sens. Le mode de vie, l'état d'esprit, tout cela n'est pas selon Dieu, n'est pas selon ce que nous voyons dans la Bible. Verset 17. Tous les pilotes, tous ceux qui naviguaient vers ce lieu, les marins, tous ceux qui exploitaient la mer se tenaient éloignés et s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement, quelle ville était semblable à la grande ville ? Les possibilités de commerce étaient magnifiques. Ils jetaient de la poussière sur leur tête, ils pleuraient et ils étaient dans le deuil. Ils criaient, ils disaient, malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence, tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure, elle a été détruite. Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous, les saints, les apôtres, les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Alors un ange puissant prit une pierre, semblable à une grande meule, et il la jeta sur la mer en disant, « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et on ne la retrouvera plus. Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque, et on n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La lumière et la lampe ne brilleront plus chez toi. » Et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, car tes marchands étaient les grands de la terre. Toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, et on a trouvé chez elles le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. La fin de ce grand système politico-religieux, sa fin. Et Dieu se réjouit de voir cette idolâtrie disparaître. Finalement. Chapitre 19, verset 20, la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. La fin de ces deux hommes, la bête et le faux prophète, qui seront responsables de tant de souffrances au temps de la fin. Ce que nous avons ici dans Apocalypse 17 et 18, en partie en 19 également, c'est un grand tableau d'événements qui vont arriver au temps de la fin et qui nous sont expliqués à l'avance pour que nous soyons avertis. C'est une chose, ce sont des événements, le développement dans l'Église catholique, le développement vers l'unification en Europe, ce sont des choses sur lesquelles, des événements sur lesquels nous devons continuer de veiller. Dieu nous avertit à l'avance, à nous de faire attention et de rester éveillés à ces événements qui vont venir. Bon sabbat à vous tous.